Du Grand Bleu, l'histoire de la plongée et la conquête du monde sous-marin, le monde du silence.
Bonjour à tous, on vous emmène effectivement en plongée profonde pendant une heure et demie ce matin sur Europe 1, puisque on va parler de la plongée sous-marine, de l'histoire de la plongée sous-marine, à travers un livre qui n'est pas encore paru, et je remercie tout de suite les deux auteurs de nous en donner la primeur ce matin, ce très beau livre qui va être une bible pour ceux qui s'intéressent à la plongée sous-marine, va paraître dans un mois seulement. Il est signé de Alain Forêt et de Pierre Martin Razy. Alors bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Alors, qui est Alain Forêt? C'est vous?
Oui.
Oui. Donc, vous êtes dirigeant d'entreprise, vous êtes moniteur de plongée, vous avez été, je crois, secrétaire général national pendant 5 ans de la Fédération française. Alors, c'est très long, votre sigle.
La Fédération française de plongée.
Voilà, c'est ça. Sinon, le titre exact, c'est Fédération française d'études et de sport sous-marin. Alors, j'allais dire, c'est une vieille dame. Non, c'est un organisme qui a un petit peu plus de 50 ans d'existence.
Ça a été une des premières fédérations de plongée au monde.
Ouais.
Et en 48.
Voilà. Donc, 48. Donc, ça va faire un anniversaire en 2008.
Et ça fait déjà, ça a fait également un anniversaire en 2005, puisque notre nom, le nom de notre fédération a été modifié plusieurs fois.
Ouais.
Et le nom que l'on a à l'heure actuelle a été adopté en 1955.
Voilà. Et alors, donc, c'est un travail en duo, avec Pierre Martin Razy. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes journaliste, vous êtes évidemment moniteur de plongée également. Vous êtes rédacteur en chef d'Océan, puis de Subaqua, et ce livre, on pourrait dire que c'est un gros hors-série de la revue Subaqua.
Oui, la revue fédérale édite des hors-séries sur les différentes activités de la fédération, et à l'occasion justement du cinquantenaire du nom de la fédération, nous avons décidé de publier ce bouquin sur l'histoire de la plongée en général et l'histoire de la fédération évidemment.
Ouais, quand je dis c'est une bible, c'est plus de pratiquement 700 pages, 1800 photos, beaucoup de documents inédits également. Vous avez fait des recherches alors tous les deux d'historiens, on va dire.
Oui, alors à la fois auprès de familles qui avaient gardé des archives qui n'avaient jamais été publiées, également auprès des musées, ce qui nous a permis de trouver parfois quelques petites pépites que l'on publie.
Voilà, que vous avez mis dans le livre. C'est vrai, moi je pense toujours à l'espace quand on me parle du monde sous-marin, mais vous êtes allé plus vite que dans la conquête spatiale, puisque ça a été très longtemps une affaire de spécialistes et de professionnels, la plongée, mais maintenant c'est un domaine qui est ouvert vraiment à tous, et juste avant de commencer l'émission, je vous demandais, on peut dire qu'il y a combien de gens qui plongent chaque année en France, quel est le chiffre à peu près
On peut dire que en France, il y a à peu près 300-350 000 plongeurs annuels, avec environ 1 à 2 millions de personnes qui ont déjà au moins une fois pratiqué la plongée dans leur vie.
Voilà,
donc ça commence à devenir quelque chose de grand public.
Ouais.
Et la démarche a été initiée historiquement à la fin des années 20. Par le prieur. Voilà.
Oui. Alors ça, on va beaucoup parler de la période récente de l'histoire de la plongée. Il y a des films aussi, quelquefois, qui frappent le public, Pierre-Martin Razy.
Oui.
Il y a eu évidemment Le Monde du Silence.
Je pense que c'est un des films fondateurs, oui.
Ah, oui. Ça, c'était Cousteau, le commandant
Cousteau, oui, qui a eu la Palme d'Or à Cannes
en 56. Ouais. Et puis, l'autre film auquel on ne peut pas s'empêcher de penser.
C'est Le Grand Bleu, évidemment.
Ouais.
Quelques années plus tard, puisqu'on sait en 1988, donc Luc Besson, qui est plongeur lui-même, mais qui est d'une famille de plongeurs, a sorti ce film, et ça a boosté la plongée sous-marine en France.
Ouais, ça a donné envie à des tas de gens de voir un petit peu par eux-mêmes ce qui se passait sous l'eau, et je crois qu'il y a eu plus de 50 000 personnes en quelques jours
qui sont venus
s'inscrire à la Fédération de plongée.
Oui. Ça a été une envolée du nombre de plongeurs, de licenciés chez nous à partir du film.
Ce qui est étonnant, c'est que ce film parle plutôt d'apnée, donc de plongée sans scaphandre, et que c'est la plongée scaphandre avec bouteille donc qui en a bénéficié.
Ouais. J'aurais dû ajouter à notre petit panégyrique comme ça, imaginaire, évidemment 20 milieux sous les mers quand même. Parce que ça, c'est les pieds lourds.
Ça, c'est le pachyderme sous l'eau, ça.
Oui, oui, encore
le plongeur pesant sous l'eau.
Encore que dans 20 milieux sous les mers... Jules Verne fasse référence à un détendeur qui était tout à fait moderne, puisque c'était le détendeur qui avait été conçu par Rouquayrol et Denayrouze, et que c'était un détendeur à la demande, comme ceux qu'on utilise aujourd'hui, c'est-à-dire que les plongeurs respiraient de la même manière que nous.
Donc ça, c'est
très actuel.
Ça, c'est le talent de Jules Verne, et en même temps, déjà, c'était l'idée que dans la mer, on pouvait faire des jardins, qu'on pouvait tirer son énergie et son activité de la mer.
Alors savez-vous que nous avons trouvé, justement, en écrivant ce livre, que Jules Verne s'est inspiré d'un livre déjà écrit, préalablement écrit, et qu'en fait, avec son génie, bah, il en a fait un chef-d'œuvre.
Ouais. Et voilà. Donc, il s'est quand même largement inspiré, on dirait plagiat un peu, hein, quand même, aujourd'hui. Mais
je dirais pas ça.
C'était non, pas l'histoire du capitaine Nemo.
C'était non, quelque... non, c'était pas l'histoire du capitaine Nemo, mais c'était quand même l'histoire de gens qui vivaient sous l'eau, à bord d'un sous-marin, etc.
Voilà. Alors, bon, il fallait parler de ça, parce que ça, c'est la plongée telle qu'on la considère aujourd'hui, en 2007. Je ne sais pas, j'imagine que dans un duo, il y en a toujours un qui s'est pris le boulot d'historien lointain. C'est lequel d'entre vous pour parler de la première fois?
Le plus lointain, c'est plutôt Pierre.
Oui. C'est plutôt Pierre.
Oui, oui.
Dites-moi simplement, donnez-nous quelques bornes comme ça, parce que la mer, bah, elle est là depuis qu'il y a des hommes. Il y a également la mer. Quand est-ce que les hommes ont vraiment commencé à avoir la curiosité de mettre la tête sous l'eau et d'essayer de voir ce qui s'y passait? Vous avez travaillé là-dessus. Hein.
Déjà, Alexandre le Grand avait eu la curiosité d'aller voir sous l'eau. Dans une cloche. Ouais. En gros, si vous voulez, les gens ont commencé à aller sous l'eau en se mettant dans des cloches qu'on immergeait avec du lest. Ouais. C'était des sortes de tonneaux renversés, en fait. Hein.
Ouais. Ils faisaient une ouverture.
C'était ouvert en dessous. Sur le bas, oui. Ouais. Et donc, en général, il n'y avait pas trop de lumière parce que les rayons lumineux ne pénétraient pas la cloche.
Ouais.
Un des progrès, ça a été justement de mettre des hublots sur ces cloches, mais ça, c'est arrivé vers le XVIIe siècle.
Ouais.
Donc, c'était les premières techniques d'incursion. Avec l'apnée, évidemment, puisque l'apnée, je pense que les premiers hommes la pratiquaient déjà, évidemment, pour aller chercher des coquillages.
Il est difficile de dater l'apnée, on a des pistes. On pense que c'est à peu près 10 000 ans avant Jésus-Christ, où on a des premiers... On a des vestiges qui nous laissent penser que les gens avaient fait des incursions en apnée, soit pour se nourrir, soit pour ramasser des ornements, des coquillages.
Ouais. On sait que ces coquillages étaient de toute façon au fond de l'eau, qu'il a bien fallu aller les chercher.
Tout à fait. Ouais. Et donc ça, c'est la mer jaune en Chine, ou bien le bassin de Méditerranée orientale. C'est à peu près les deux points où, il y a 10 000 ans, on a commencé à plonger en apnée.
Voilà. Pendant l'Antiquité, les apnéistes pratiquaient des travaux sous-marins. Donc ça, on en a la preuve à travers Homère, notamment.
On va continuer à parler de l'histoire de la plongée. L'histoire ancienne, moi, c'est intéressant de rester quand même un petit peu sur ce chapitre-là, parce que à l'époque, il faut pas oublier aussi qu'il y avait beaucoup de contes, de légendes. On supposait que la mer était extrêmement dangereuse, peuplée de dieux ou de déesses, pas forcément sympathiques pour les hommes.
Plutôt des monstres, même, d'ailleurs.
Et des monstres marins, évidemment. La cloche dont vous me parliez tout à l'heure, c'était vraiment... Qu'est-ce qu'on en sait? Est-ce que c'était uniquement la curiosité ou est-ce que c'était pour récupérer déjà, des épaves ou...
La curiosité, certainement pas. C'était utilitaire. Soit pour se nourrir, soit pour récupérer des épaves.
Ouais.
Essentiellement, c'était ça. Et ensuite, il y a eu un autre objectif, ce qui était des objectifs militaires. Mm-hmm. Aller couler des navires, couper des amarres. Mais il y a toujours eu un objectif vraiment utilitaire. Le côté contemplatif est apparu au XXe siècle.
D'accord. Et pour respirer sous l'eau, c'était l'air de la cloche.
C'était l'air de la cloche, oui. L'un des progrès de cette cloche, justement, ça a été d'apporter de l'air frais, avec des tonneaux qu'on descendait pour remplir la cloche. Vous imaginez un petit peu le travail.
On descendait des tonneaux pour transvaser de l'air.
Beaucoup plus tard, pas pendant l'Antiquité. Hein. Ouais. Ça, c'était plutôt au XVIe et XVIIe siècle. Hein.
Ouais.
Avec la cloche de Halley, notamment, qui était un Anglais, le fameux Halley, l'astronome, qui avait inventé une cloche.
Ouais.
qui était remplie avec des tonneaux d'air frais.
Ouais. Alors après ça, on continue à remonter, dans le temps un peu.
Alors justement, cette cloche a évolué en fait, parce que les scaphandriers tels qu'on les voit aujourd'hui, qu'on les visualise avec le fameux casque en cuivre et les petits hublots comme Tintin et Rackham le Rouge, ça n'est qu'une extrapolation de la cloche. On a réduit la cloche pour la mettre simplement sur la tête du plongeur.
Ouais.
Et pendant... 2 ou 3 siècles, les plongeurs sont allés sous l'eau comme ça, avec une pompe en surface, et on emmenait de l'air frais avec cette pompe jusqu'à la cloche.
Ouais.
Et cet air s'échappait naturellement par le bas du casque.
C'est ça, ouais.
En fait, les gens devaient rester évidemment le plus droit possible, parce que sinon ça se terminait assez mal.
Oui. Et déjà,
voit d'ailleurs dans le Grand Bleu, au début, l'épisode dramatique du Grand Bleu, c'est exactement ça. Donc c'est un scaphandrier avec l'air qui normalement s'échappe par le bas, et puis il se renverse, et puis il meurt, et c'est le père du héros dans le Grand Bleu.
Ouais. Et donc déjà, évidemment, on avait compris qu'il fallait lester soit les cloches d'ailleurs, soit les gens eux-mêmes. Hein. Donc ça, c'était
ça, Archimède, c'est deux siècles et demi avant Jésus-Christ. Donc ça a pas changé.
Dans l'eau, etc. Voilà. Bon. Alors, après ça, 16e, 17e siècle, donc déjà, il y a quand même la possibilité d'aller récupérer quelquefois des trésors. Hein. C'est ça qui est amusant, c'est que c'est une permanence finalement de l'histoire de l'homme sous l'eau.
Mais ça, c'est ce qui a toujours fasciné les hommes, je crois, les trésors. Et il y a notamment un plongeur fameux, un Anglais, John Lethbridge, qui allait récupérer des trésors dans les, enfin des cargaisons, parce que c'était pas forcément des trésors, mais c'était des cargaisons qui lui ont quand même permis de s'enrichir. Et il s'enfermait dans un tonneau. C'était un tonneau qui était assez long, qui lui permettait d'être allongé à l'intérieur. Et il avait les deux bras qui sortaient de ce tonneau, avec une étanchéité avec du cuir. Et il travaillait jusqu'à une douzaine de mètres de fond. Alors vous imaginez la différence de pression entre les bras et le corps du plongeur, ça devait être des souffrances absolument intolérables.
Au niveau des bras, ça devait, ça devait être horrible.
Oui, et c'est cet homme-là qui a été chercher le trésor de Nostra Señora de la Concepción, un des navires amiraux de la flotte espagnole en Amérique du Sud, qui avait fait naufrage sur un récif.
Et il a aussi, alors partiellement celui-là, parce qu'on le recherche toujours.
Cousteau l'avait appelé la Nostra Señora de la Deception. Il l'avait jamais trouvé. J'ai jamais oublié ça.
Grande expédition, jamais trouvé.
Les histoires de trésors sous-marins constitueraient à eux seuls un livre entier.
Ouais, j'imagine bien sûr, parce que ça fait rêver les gens.
Il nous faudrait beaucoup plus de pages encore.
Ouais, c'est formidable. Quand est-ce qu'on en arrive à cette image, puisque vous faisiez référence à Tintin tout à l'heure, moi j'ai toujours l'image des deux Dupont qui devraient continuer à actionner leur roue pour donner de l'air à celui qui est au fond.
Ça, c'est 1860, à peu près.
Oui.
Ça commence là, avec une invention française. On peut dire c'est là que c'était vraiment opérationnel, un petit peu avant par d'autres, mais ce qui l'a vraiment rendu opérationnel, c'est Rouquayrol et Denis Rouze.
Le scaphandre tel qu'on l'imagine est dans Tintin, c'est avant, c'est plutôt Scibé en Angleterre, qui a été repris par Cabirol en France. Effectivement, Denis Rouze est arrivé un petit peu après, mais donc le fameux détendeur que j'évoquais tout à l'heure, à la demande, était monté sur un casque lourd classique.
Ça veut dire quoi un détendeur? Là, c'est aux hommes de...
En fait, ce qui se passe, c'est que pour pouvoir respirer au fond, il faut emmener de l'air à une certaine pression. Mm-hmm. Et il faut que l'air arrive avec beaucoup trop de pression, en fait, pour des raisons techniques.
Ouais.
Même aujourd'hui, quand on est en scaphandre, la bouteille contient de l'air sous pression.
Ouais. Mm-hmm.
Et quand on respire, il faut qu'on respire à une pression bien moindre. Donc il faut détendre l'air pour être capable de le respirer. Sinon, c'est comme si on recevait
les poumons exploseraient.
Comme si on recevait un flux d'air
trop fort.
Ouais, donc pour pouvoir respirer normalement. Ouais. Sans...
c'était un problème technique à résoudre et qui a été résolu quand même très tôt.
Par Rouquayrol et Denis Rouze, détendeur à la
fin. Magistralement, on peut dire
qui sont des ingénieurs, qui sont avéronnais. Et on peut voir d'ailleurs. Donc c'est une invention avéronnaise et on peut voir leur invention et puis d'autres aussi au musée d'Espalion.
C'est kitsch, hein.
Ce qui est assez étonnant.
Ce qui est étonnant, c'est que les progrès de la plongée sont passés par les mines. Parce qu'en fait, un des deux inventeurs donc du détendeur, Rouquayrol, était ingénieur des mines. Et en fait, l'idée, c'était d'inventer des appareils de sauvetage en cas d'accident de grisou dans les mines.
D'accord, oui. Donc il fallait que les gens puissent respirer, évidemment, un air qui n'était pas dangereux.
Et donc l'application, après, s'est faite dans l'eau. Mais à l'origine, c'était pas ça.
Ouais.
Pourquoi? Parce que le scaphandre lourd était tout à fait opérationnel pour faire ce dont on avait besoin et ce qu'on voulait faire sous l'eau, c'est-à-dire travailler, et qu'il n'y avait pas cette démarche de loisirs et de plaisirs qu'on a aujourd'hui avec la plongée.
Oui, c'est ça. À l'époque, si on va sous l'eau, enfin, même à la période de Jules Verne, quoi, je veux dire, il n'y a pas vraiment de plongée loisir.
Non, c'est utilitaire.
C'est utilitaire.
Utilitaire, militaire.
Voilà. Oui, et c'est à peu près à ce moment-là aussi qu'on invente les premiers sous-marins, quoi, finalement, même si, bon...
Guerre de sécession.
La guerre de sécession, d'accord. Mais disons qu'on a de connaissances de la mer qu'une connaissance très, très, très vague, très lointaine.
Disons qu'entre les Grecs et le XVIIIe siècle, il y a eu une grande amnésie vis-à-vis de la mer. Quoi.
Ouais, il se passe pas grand-chose. Bon. Alors après ça, il y a les guerres. Les guerres font toujours avancer les techniques. Hein. La guerre de 14, je ne sais pas si ça a été le cas.
Pas vraiment pour la plongée sous-marine. Mm-hmm. Parce qu'en fait, on parle de matériel, mais la plongée a pu se développer parce qu'il y a eu aussi des progrès en médecine. des progrès technologiques, ouais. Mais aussi des progrès de société, des avancées de société.
Ouais.
Il fallait que tous ces facteurs convergent pour arriver au développement de la plongée de loisirs, encore une fois.
Ouais. C'est pas forcément des guerres, mais c'est vrai que ce sont des objectifs militaires.
Oui, à la fois.
Ce sont des objectifs militaires qui ont conduit au développement de la plongée. La plongée a commencé par ça, parce qu'il fallait pouvoir faire plonger en sécurité des militaires sous l'eau pour des opérations d'intervention. Ouais. Et c'est là que des progrès décisifs ont été menés pour arriver justement à savoir comment on pouvait descendre et remonter sans danger. Et ça a abouti réellement en 1908 en Angleterre avec la Royal Navy qui a sorti avec Haldane les premières tables de décompression en plongée.
Ouais. Et alors cela dit, je passe à une autre idée comme ça parce qu'elle me vient là en vous écoutant parler. La première photo sous-marine, elle a été faite au 19e siècle.
Oui.
J'ai vu ça dans votre bouquin.
Ouais. Non seulement la première photo,
c'est
mais le premier livre de photos sous-marines qui a été écrit par un Français, d'ailleurs, par Louis Bouton, a été écrit en 1900.
Oui, ces premières photos ont été prises au laboratoire Arago à Banyuls. Et oui, c'est très étonnant, mais c'est comme ça.
Nous sommes avec Alain Forêt et Pierre-Martin Razy, deux plongeurs et aussi deux historiens de la plongée sous-marine. Ils publient dans un petit mois maintenant un très beau livre qui est une somme, vous l'avez compris, une histoire de la plongée, ça c'est le titre, et des activités subaquatiques, ça c'est maintenant bien sûr, et c'est donc un hors-série du journal Subaqua, avec beaucoup de photos, on l'a dit, beaucoup de documents inédits, c'est-à-dire que vous avez voulu finalement vous adresser à ceux qui trouvent naturel de plonger et d'aller se balader, de faire du tourisme sous-marin. Vous avez voulu leur expliquer d'où venait l'histoire de cette pratique, qui est d'ailleurs, on peut faire un petit cocorico là, la France a tenu un rôle très important dans le développement de la plongée sous-marine.
Un rôle majeur, la fois sur le plan théorique et pratique. Théorique avec les travaux de Paul Bert et sa publication de 1878. Paul Bert, en 1878, arrive à expliquer pourquoi les travailleurs dans les caissons, quand ils remontent ou dans les puits, ont des problèmes quand ils travaillent sous pression. Donc c'est lui qui identifie le rôle de l'azote, qui peut faire des accidents de décompression et qui propose un premier protocole de remontée lente. Ça c'est français, c'est 1878. Ouais. Après on partage un petit peu quelque chose avec les Anglais en 1908.
C'est étonnant.
Quand même, qui eux utilisent les travaux de Paul Bert et arrivent à définir des tables de plongée.
Ouais.
Et ensuite quasiment tout le reste du développement, c'est-à-dire la bouteille de plongée, l'air comprimé, c'est le Prieur 1925-1927, ouais. Les palmes, c'est De Corlieu 1933, le détendeur ensuite, c'est 42-43, 45, Comaine, Cousteau, etc.
Ouais.
Et puis la plongée professionnelle, même, ça a été aussi la Comex avec Deloze, ouais. Et c'est tout ça, c'est la lignée française, plus évidemment. Ce qui a fait un développement fantastique de la plongée, c'est quand même Cousteau, tous ses films avec Falco, Albert Falco, qui ont fait rêver des générations.
Et tu as oublié le premier club amateur de plongée sous-marine.
Alors attention, parce que ça a été une de mes découvertes dans votre livre. Donc le premier club, effectivement, de plongée sous-marine s'appelle le club des sous. L'eau, évidemment. Bon. Alors, c'était en
1934.
Alors, racontez-moi rapidement l'histoire de ce club.
Eh bien, disons que le Prieur, donc, qui était un personnage absolument extraordinaire, officier de marine, inventeur fou. Vous savez que le Prieur a inventé notamment la transparence cinématographique, entre autres choses.
Ouais.
Et il avait donc réinventer, on va dire, un détendeur, enfin un scaphandre, qui permettait d'aller sous l'eau. Mais la démarche de Le Prieur, elle a ceci de particulier, c'est qu'en fait, lui, il va sous l'eau pour se faire plaisir, pour s'amuser, et il cherche à gagner des adeptes.
Et ça, c'est novateur. C'est la première fois que ça arrive dans
la plongée. C'est là où vraiment la cassure se fait. C'est pour ça que notre livre est divisé justement en deux parties.
Ouais,
la partie avant et la partie après, le Prieur. C'est le Prieur pour nous.
C'est lui vraiment la charnière de cette histoire.
Même si sur le plan technique, c'est une régression par rapport aux fameux détendeurs Rouquayrol et de Mérouse dont on parlait.
Ouais.
Mais sur le plan du loisir, c'est évidemment le Prieur qui a inventé la plongée. Donc, plaisir.
Alors, donc,
sauf qu'il n'était pas tout seul.
Oui, bien sûr.
Et il était avec un personnage lui aussi extraordinaire, c'est Painlevé, Jean Painlevé.
Ouais, le fils de Paul Painlevé, homme politique.
Le fils du ministre.
Mathématicien et homme politique.
Voilà. Ouais. Et donc, Jean Painlevé, qui était biologiste, enfin cinéaste, était lui aussi plongeur. Il a réalisé des films sous-marins.
Dont l'Hippocampe. Il a réalisé un film, l'Hippocampe, en 1933, qui maintenant est classé patrimoine de l'humanité à l'UNESCO.
C'est extraordinaire. C'est qu'il a, il a filmé des hippocampes.
Voilà, c'était le premier à faire ce genre de film. Il a fait des films scientifiques. Et poétique et également, poétique, ouais. Hein, puisque c'était quand même, il avait toujours cette poésie dans les films, ouais. Et il a apporté énormément aux premières images sous-marines animées.
Ouais. Painlevé avait énormément de contact avec les surréalistes. C'était un artiste, ouais. C'était un scientifique artiste.
Ouais. Et pourquoi on dit le commandant Prieur toujours? C'était un militaire.
Oui, c'était un militaire. Oui, ouais. Oui, il était pilote d'hydravion. Ça a été un des premiers pilotes d'hydravion, le Prieur.
J'adore.
C'est un japonais. Il parlait le japonais. Ouais. Il avait séjourné au Japon, et c'est lui qui a apporté. Ouais. Le judo, les sports.
Ah oui, il a créé ça aussi. Oui.
Enfin, il les a créés. Non, mais en traduisant des manuels du japonais au français, il a fait en sorte que.
Il a popularisé,
le judo puisse se développer en France.
Alors, donc, pour rester sur le club des sous-l'eau, donc, il y a après le Prieur, il y a Painlevé dont vous venez de parler, tous ces gens-là vont se retrouver, créer une association, je suppose.
Alors, comme le Prieur et Painlevé étaient des gens qui aimaient bien la vie, ils ont décidé donc de créer un club pour. Ouais. Pour initier d'autres personnes qui avaient envie de découvrir les joies de la plongée. Ils en faisaient la publicité partout. Ouais. Et ils ont donc créé une association qui s'appelait le Club des Sous-l'eau. C'était un clin d'œil.
Ouais.
Mais très vite, ils ont été obligés de changer de nom parce que...
Il y a eu un petit incident
C'est-à-dire
d'une piscine un jour. Non,
voilà, en fait, ils ont décidé d'organiser une soirée dans une piscine et d'inviter un ministre, le ministre de la Marine de l'époque, qui était connu pour abuser un petit peu de la Suze.
Oui.
Et donc, ils se sont dit, si on fait de la publicité autour de cette soirée en disant que c'est le club des sous-l'eau qui l'organise,
ça va poser un problème.
Voilà. Donc, ils ont fait une assemblée générale extraordinaire la veille ou l'avant-veille de la soirée
pour changer
l'intitulé du...
Là, qui est devenu le club des scaphandres et de la vie sous l'eau, et c'était politiquement plus correct.
Ouais. Alors, bon,
sauf que Painlevé a voté contre, parce qu'évidemment, il trouve absolument intolérable de changer de nom uniquement parce qu'un ministre venait à la soirée.
Alors, cela dit, là, on est en 34, vous dites, 1934. Bon. Et qu'est-ce qu'on a à notre disposition en 1934 pour aller sous l'eau? Le masque classique qu'on connaît,
le masque
qu'on achète quand on part en vacances, ça existe déjà?
Oui, oui. Le masque existe, le tuba existe, les palmes viennent d'être inventées par De Corlieu. Elles sont pas encore.
Vous allez trop vite. Je m'arrête au masque là pour l'instant.
Oui, oui.
Ce masque, il est fait en quoi? En EVA, non?
Oui.
On avait tellement l'habitude, maintenant c'est du plastique ou des caoutchoucs.
La silicone même.
Ah oui, et du silicone, bien entendu. Oui. Donc à l'époque, c'est de l'EVA, caoutchouc.
Du caoutchouc, oui.
C'est du caoutchouc. Il y a eu des tentatives en celluloïde qui donnaient pas grand-chose. On a mis du temps, parce que ce qu'il faut comprendre pour aller sous l'eau, il a fallu à la fois avoir l'idée, mais en même temps avoir les matériaux.
Bien sûr.
Et donc, quand le caoutchouc est arrivé, là, on a pu vraiment faire de vrais masques.
Ouais.
Et auparavant, on était extrêmement embêtés.
Oui, le problème, c'est, j'imagine, que l'eau rentrait.
L'eau rentrait, c'était dur, ça faisait mal au visage. Voilà, bon.
Ouais.
La souplesse du caoutchouc, ça a mis du temps.
Le tuba, c'est donc dans la foulée, j'imagine.
Le tuba, c'est depuis l'Antiquité.
Ouais.
On peut supposer que les gens
respirent. C'est le roseau, c'est les Indiens qu'on voit se planquer en respirant dans un roseau, c'est ça, c'est le tuba.
D'accord. Alors, les palmes, arrêtons-nous aux palmes, parce que qui a inventé les palmes?
Alors.
C'est difficile à dire.
C'est une longue histoire. Il y a des brevets qui datent de 1879, essentiellement sur l'Allemagne, sur la Suisse. Mais ça n'est pas la palme telle qu'on l'entend aujourd'hui, parce que, bizarrement, même si ça paraît évident, il a fallu à peu près un demi-siècle pour découvrir qu'il valait mieux faire un battement de palme plutôt que nager comme les grenouilles.
Ah bon?
Donc tous les anciens brevets sont des brevets qui sont faits pour nager comme la grenouille.
Comme la grenouille.
Donc on essaie de pousser de l'eau comme une grenouille derrière et d'avoir les pieds qui, quand on pousse de l'eau comme ça, ont la plus grande surface. Donc il y a des brevets très compliqués qui sont inventés.
Ouais.
Et arrive De Corlieu en 1933, qui s'inspire un petit peu d'un brevet de 1879, mais qui ne fonctionnait pas parce qu'à l'époque la palme était en bois, rigide, ça ne marchait pas très bien. Lui, il y a le caoutchouc maintenant qui est disponible avec la vulcanisation.
Ouais.
il invente cette palme-là et elle devient réellement efficace.
D'accord. Et on s'en sert en battant.
Et on s'en sert en battant.
Je fais juste un petit retour là. Ouais. Mais les plongeurs, au début, on les appelait les hommes grenouilles. Rappelez-vous.
Ah, mais alors ça vient de là, donc.
Oui, on peut le supposer. De là, on peut le supposer.
Mais c'est sûr qu'il y a eu un imaginaire autour de la grenouille plus que du poisson.
Oui. Mais sur l'imaginaire autour de la palme, il faut remonter beaucoup plus loin.
Léonard de Vinci, effectivement, a dessiné. Oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai. Mais Borelli aussi a dessiné des palmes.
Oui, et puis Léonard de Vinci, il a dessiné des palmes ou des gants. On ne sait pas trop si ce sont des gants palmés ou des palmes. Mais c'est effectivement, il a déjà pensé à ça.
Il suffisait d'observer la nature, de toute façon.
Une plongée dans l'histoire de la plongée, c'est le cas de le dire, à travers ce livre qui va paraître bientôt, Une histoire de la plongée, qui est signé Alain Forêt et Pierre-Martin Razi. Je continue mon inventaire. La bouteille, alors l'idée d'aller sous l'eau avec une bouteille sur le dos pour respirer de l'air comprimé, ça date de quand?
Ça, c'est 1925.
Ouais.
Exposition des arts décoratifs à Paris, au pavillon industriel.
C'est là rapport avec les arts décoratifs.
Eh ben écoutez, il se trouve qu'il y avait un pavillon industriel à côté des arts décoratifs. Que dans ce pavillon industriel, il y avait une démonstration de soudure sous l'eau avec un appareil respiratoire qui permettait de s'affranchir du gros casque lourd dont on a parlé au début. Ouais. Et le commandant Le Prieur passe dans ce pavillon, regarde ce phénomène et se dit mais il reste relié à la surface, ça c'est dommage, mais déjà respirer sous l'eau sans avoir un grand casque sur les épaules, c'est super. Ouais. Il suffirait de couper le cordon ombilical pour peut-être être totalement autonome sous l'eau, comme un poisson. Ouais. Et il se trouve qu'au même moment, on doit ça à l'automobile, à la fois la bouteille et le détendeur, on doit vraiment à l'automobile, on parlera peut-être tout à l'heure. Ouais. Les automobiles, il y avait beaucoup de crevés assez souvent, donc à l'époque, on s'arrêtait comme avec les vélos, on démontait le pneu, on mettait la rustine, après il fallait regonfler pour aller plus vite. Michelin avait proposé une bouteille standard gonflée à 150 bars. Et donc, avec cette bouteille, on l'ouvrait et on gonflait le pneu.
Ah, d'accord, sans être obligé d'aller chercher le garagiste,
le papier ou autre.
D'accord, oui.
Et donc, le prieur se dit, je prends cette bouteille d'air comprimé, je mets un tuyau entre les deux et un détendeur dans la bouche, et ça peut fonctionner.
C'est génial.
Il voit Fernet lui dit OK, 2 ans plus tard, 1927, premier détendeur sans lien avec la surface qui apparaît, et c'est le début de la plongée de loisir.
Ouais. Alors, donc, ça veut dire que le club des sous-l'eau, avant de changer de nom, peuvent se servir déjà de ce matériel.
Ah, mais non seulement ils pouvaient, mais ils s'en servaient. Ils faisaient des baptêmes avec tout ça.
Ouais.
Ils faisaient des initiations à Paris, à Saint-Raphaël, partout.
Alors cela dit, on ne peut pas parler là, d'engouement populaire pour ce sport qui reste quand même un sport de privilégiés, d'ailleurs de gens assez aisés.
C'est des gens plutôt même des grandes familles, majoritairement.
Ouais.
Qui passe un certain nombre, qui passe l'année à Paris et puis qui passe une grande partie de l'été sur la côte,
qui peuvent l'hiver à la montagne.
L'hiver à la montagne.
Un côté club alpin, vous dites dans votre livre.
Mais tout à fait. Ouais. L'hiver à la montagne. En fait, un des premiers clubs qui a été créé, c'est le club alpin sous-marin, parce que des gens qui étaient à la montagne se disaient qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire l'été.
Ouais.
Bon, ils descendaient sur la côte et ils se sont dit finalement on pratique l'alpinisme à la montagne et on va faire de l'alpinisme sous-marin. On va descendre des montagnes sous l'eau plutôt que les gravir.
Ouais.
Et c'est comme ça qu'est née finalement la plongée en liaison. Beaucoup de moniteurs à l'époque faisaient moniteurs de ski l'hiver et l'été à la mer.
Les moniteurs de changer.
Je pense qu'il y a une fête quand même qu'on a un petit peu oublié.
Ouais.
C'est en parlant de privilégiés, je pense que c'était aussi des privilégiés géographiques.
Ouais.
Parce que les gens qui habitaient en bord de mer avaient plutôt tendance, plus tendance à aller dans l'eau que les gens
bien
de l'intérieur,
sûr.
Évidemment.
Mmh.
Mais y a un aspect qu'on a oublié, c'est la pêche sous-marine. Parce que un des axes de développement des activités sous-marines, ça a quand même été la pêche.
Ouais. Et ça commence à ce moment-là,
c'est à peu près dans les mêmes périodes.
L'arbalète.
Oui, à peu près dans les années 30.
Ouais.
Parce qu'il fallait les masques, on avait besoin donc du caoutchouc.
Donc là, on
et
les
parce
avait.
Que pour pêcher sous l'eau sans palme, c'était un peu compliqué. Donc,
à partir du moment où on a le masque et les palmes, il suffit d'inventer une arbalète à air comprimé.
Oh, à sans dos.
Ou à sans dos,
ou à ressort.
En fait, le sans dos a gagné à l'époque. Il y avait un combat technologique entre les trois.
Et donc là, c'est la grande aventure des
pêcheurs. La grande cassure, si vous voulez, ça a été le fait qu'on passe de la station verticale à la station horizontale.
Ouais.
C'est ça. On est devenu des poissons, en fait.
Voilà, qu'on puisse se déplacer sous
quand
l'eau.
Quand on a abandonné les semelles de plomb et qu'on a choisi les palmes, tout a changé.
Philippe Diollet, qui a beaucoup écrit sur la plongée, disait qu'on est passé
sur le calypso.
Voilà, tout à fait. Disait qu'on était passé du pachyderme à l'oiseau. grâce aux palmes et à la bouteille.
Et c'est vrai. Alors évidemment, là, je pense aux illustrations qui sont dans votre livre, qui sont magnifiques, parce qu'il y a des vieilles affiches, il y a des vieilles couvertures de magazines de l'époque, hein, et vraiment, on montre, il y a un rapport avec l'espace. Hein, je ne sais plus, j'ai pas les titres en tête, là, j'ai pas ces illustrations sous les yeux, mais les titres sont parlants, quoi. Faisons du tourisme sous-marin, allons au pays des poissons.
Franchir le miroir de l'eau. Ouais. Voilà, il y avait toute une.
Et on est passé d'une vision craintive de la mer à une vision plaisir, en fait.
Ouais. Et alors, évidemment, vous avez dit très vite que le prieur avait vu à l'exposition en question, pour la première fois, une flamme sous l'eau. Vous publiez une lettre, je crois.
C'est ce qui l'impressionne, oui.
Ça l'impressionne, évidemment. Voir brûler une flamme sous l'eau, c'est absolument génial.
Il faut savoir qu'à l'époque, on n'avait pas encore allumé la mer.
Oui. Et là, oui.
Donc, c'est le début. On commence à se dire, mais peut-être qu'il y a des moyens d'avoir d'amener de l'éclairage sous l'eau. Ouais. Et finalement, ça verra jour qu'à peu près vers 47. En tout cas, James Duncan, qui travaillait avec le commandant Cousteau, date ça de 47, où il dit on a illuminé pour la première fois sous l'eau. C'est sans doute un peu faux parce que
les scaphandriers avaient des lampes.
Il y avait quelques lampes. Ouais. Mais disons que à partir du moment où on a commencé vraiment à se rendre compte qu'il y avait une féerie de couleurs sous l'eau. Il faut quand même attendre les années 40, quoi.
Ouais. Alors, les premières photos sous-marines en couleur, il faut quand même rendre à César, ce sont les Américains qui les ont faites pour le National Geographic.
Ah oui, avant-guerre aussi, alors.
Oui, à peu près, oui, dans ces eaux-là.
Alors, il y a évidemment une date qui est très importante dans la popularisation de ces sports sous-marins, c'est 1936, c'est les congés payés.
Ouais. Mmh.
En fait, hein. C'est ça qui va vraiment amener des gens, alors cette fois-ci, qui sont plus forcément, font pas partie de ce club dont vous parliez tout à l'heure.
Disons que c'est le phénomène déclencheur. Alors ça met du temps, mais la mèche est allumée.
Mm-hmm.
Et dans les années qui suivent, les gens vont commencer à découvrir la mer.
Ouais.
Ceux qui plongent en scaphandre restent malgré tout les privilégiés.
Mm-hmm.
Mais à côté de cela, il y a des tas de gens qui découvrent palmes, masse, tuba, et puis qui vont peut-être prendre un fusil, qui vont aller pêcher du poisson.
Mm-hmm.
Et c'est là vraiment que le peuple français se tourne vers la mer.
Ouais.
Voilà. Et va voir un peu ce qu'il y a en dessous. Et puis, dans les années 50, les deux fusionneront dans la même fédération, la nôtre.
Ouais.
Et Roger Olombel, qui a 95 ans maintenant et qui a vécu tout cela et qui est un ancien de notre fédération, me disait, ça a été la fusion de la fédé des riches avec la fédé des pauvres.
Ouais, voilà.
Voilà.
Ouais. Alors, après, il y a la guerre et moi, j'aimerais bien comprendre une chose. Vous avez dit, on va sous l'eau, on a le matériel qu'il faut, on fait des films, on fait des photos, et arrive Cousteau. Quelle est sa contribution? Parce que Cousteau arrive pas tout seul. Hein. On a parlé à une époque des mousquemères.
Oui, alors le terme mousquemère est apparu...
Après-guerre.
C'est après-guerre, ça.
Oui,
d'accord.
Oui. En fait, ce qu'amène Cousteau, d'abord, il amène un détendeur réellement opérationnel. Parce que...
Donc on continue à faire des progrès. Hein,
On peut dire qu'après Cousteau, les progrès sont marginaux.
D'accord.
Ils existent, hein, les fabricants pensent qu'ils font beaucoup de progrès à l'heure actuelle.
Mais fondamentalement, le progrès qu'il fallait faire?
Il est revenu, en fait, à un détendeur. En fait, on a eu Rouquayrol et de Nérouse, 1865, qui font un détendeur à la demande. C'est-à-dire que quand on inspire de l'air, il vient normalement, comme si on était comme nous, là, en ce moment. En train de parler. Le prieur en 25 oublie ça. Il y a une sorte d'amnésie de l'histoire. Il oublie ce dispositif. Il y a de l'air qui débite en permanence dans le masque. Il faut récupérer ce qu'on peut avec
comme
des avec la bouche, comme on peut. Alors là, c'est pas pratique. Et puis arrive en 43-45 Cousteau qui là invente réellement un détendeur à la demande, souple, facile d'utilisation. Et ça, c'est un grand progrès.
Il ne tombe pas en panne.
Voilà le CG45.
Une histoire de la plongée avec Alain Forêt et Pierre-Martin Razi. Donc on évoque les grandes étapes, les grands progrès qui ont été faits les uns derrière les autres. Tout ça pour partir d'un monde qui réunissait une poignée en fait de spécialistes et qui un jour s'est ouvert à une pratique beaucoup plus touristique entre guillemets. Une plongée plaisir qui est pratiquée maintenant par, vous l'avez dit tout à l'heure en commençant l'émission, près d'un million de personnes au bas mot, hein, parce qu'il y en a peut-être, plus. Et en tout cas qui permet chaque année à des gens curieux d'aller mettre la tête sous l'eau, d'y prendre du plaisir et puis d'en faire une pratique sportive tout au long de l'année. Et si on reste dans l'histoire, là on parlait de Cousteau tout à l'heure, 1940 c'est la guerre, il n'y a pas que la France quand même, hein, et dans les pays en guerre, les nageurs de combat, là maintenant il n'est plus question, on n'est plus dans les balbutiements, quoi. Je veux dire, on sait aller sous l'eau pour y faire un certain nombre de choses. Et les nageurs de combat, évidemment, c'est les gens les plus affûtés, quoi.
Surtout les Italiens.
Ce sont les Italiens, oui, qui ont, je pense, développer ces techniques au maximum. En fait, les nageurs de combat doivent aller sous l'eau et prioritairement ne pas se faire repérer.
Ouais.
Et ensuite réaliser leur mission. Mais d'abord ne pas se faire prendre. Et pour ça,
c'est gênant avec les bulles.
Voilà. Donc pour ça, ils respirent de l'oxygène pur. Ouais. Avec un appareil qu'on appelle un circuit fermé, c'est-à-dire que cet air est épuré du gaz carbonique et est consommé par l'organisme. Donc il n'y a pas de bulles rejetées.
Ouais, c'est ça, quand la personne expire, elle expire dans un système fermé.
Et c'est pour ça que très souvent, les gens confondent et disent, y compris les journalistes, on plonge avec de l'oxygène. Ouais. Ça date de cette époque. Ouais. En fait, on plonge avec de l'air aujourd'hui. Ouais. Mais les nageurs de combat italiens, où la presse s'est fait écho très longtemps de leurs exploits, eux étaient à l'oxygène pur. Et on a gardé dans l'inconscient un peu collectif qu'on plonge à l'oxygène.
Oui. Alors
et en fait, aujourd'hui, on plonge à l'air.
Uniquement réservé aux nageurs de combat. Et en plus, c'est dangereux. J'ai découvert dans votre livre, l'oxygène peut être un poison.
Si on descend trop profond, oui.
Oui,
oui. Oui. Si on dépasse une profondeur de 6 à 7 mètres, ça peut présenter quelques risques. Mais certains nageurs sont capables de descendre beaucoup plus profond. C'est aussi une question d'entraînement et de sensibilité. Personnelle.
On peut dire que l'oxygène, ça n'est pas fait pour plonger réellement, c'est plutôt pour être sur des interventions, prendre un cap, nager sous l'eau, aller poser une mine et revenir. Et là, on est dans 3, 4, 5, 6 mètres d'eau. Quoi.
D'accord. Et ces nageurs donc italiens sont particulièrement illustrés
Oui. Ils étaient dans l'équipe du fameux prince Borghese. Et il y en a un notamment, c'est Luigi Ferraro, qui deviendra plus tard un des fondateurs de la Confédération mondiale des activités subaquatiques, nageur avec palme renommé, qui a été un très très grand nageur de combat et qui a des milliers de tonnes de bateaux coulés à son actif. Et d'ailleurs, il y a une anecdote amusante à ce sujet, c'est que son épouse, Orietta, a été la seule femme nageur de combat de toute l'histoire, puisqu'il devait faire une opération en Libye. Alors cette anecdote rappellera peut-être d'autres souvenirs, mais il fallait que ce soit un couple qui aille là-bas. Et donc
des faux époux, vous voulez dire.
Voilà, par exemple.
Mais là, c'était des vrais.
Et alors, les Italiens se sont dit, ce serait quand même beaucoup plus crédible si on envoyait des vrais époux plutôt que des faux époux. Et donc, ils ont formé Orietta, qui est devenue nageuse de combat. En réalité, l'opération ne s'est pas faite. Elle a été annulée au dernier moment. Mais Orietta Ferraro est l'unique femme nageuse de combat de toute la soirée.
Tiens, vous avez vraiment, vous êtes sûr de ne rien avoir oublié, quoi, finalement, dans ce livre.
On a tout oublié.
C'est incroyable. La somme de boulot qu'il y a derrière tout ce que vous êtes en train de raconter, il fallait le trouver, chercher les documents.
On a dû oublier un certain nombre d'éléments, évidemment, parce que le domaine est très, 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 très vaste.
Ouais.
Mais je pense que malgré tout, ça, on a fait quand même à peu près le tour de la question.
Ouais, de toute façon, on ne l'a pas dit, je crois, mais vous vouliez faire ce bouquin un an et demi avant 2005, parce que ça allait correspondre à un anniversaire pour votre fédération.
Oui.
Et vous avez juste pris 2 ans de retard. Quoi.
Voilà, c'est ça. On avait 2 ans de délai et on a pris 2 ans de retard. D'accord. Donc c'est un petit détail. Voilà.
Vous étiez parti sur un livre de 300 pages et vous arrivez à 700. Quoi.
Exactement.
Alors, on a cité Cousteau, mais on ne peut pas citer Cousteau comme ça. Certes, il faut lui rendre effectivement ce détendeur, vraiment la mise au point, quoi, quasiment définitive, quoi, du détendeur. Ensuite, il y a quand même toute l'aventure de la Calypso. C'est quand même lui qui va populariser auprès du grand public le monde sous-marin.
Ouais, il n'y a aucun doute. Oui. Ouais. Vous savez, Cousteau, ça a été l'homme le plus connu quand même sur la Terre.
Capitaine Planète.
C'est extraordinaire.
Ouais. Ouais. Avec donc Albert Falco, qu'on salue au passage s'il nous entend. Moi, je suis un amoureux inconditionnel d'Albert Falco, personnellement.
Nous aussi, je crois.
Cousteau disait, Falco m'a prêté ses yeux. Ouais. Et en fait, quand Cousteau a embauché Falco, c'était en 52 pour les fouilles archéologiques du Grand Congloué. Falco était en Corse.
C'est une épave qui se trouvait devant Marseille.
Devant Marseille. C'est une des premières grandes fouilles archéologiques qui a eu lieu.
Ouais.
Falco était en Corse. Et il reçoit un message, possibilité embarquée sur Calypso, reviens vite. Alors, c'était le président de la Fédération française de sport sous-marin qui en avait parlé avec Cousteau qui était président président de la commission de plongée.
Ouais. Et il cherchait un capitaine pour son bateau.
C'était pas un capitaine, il cherchait déjà des plongeurs.
Des plongeurs, d'accord. Oui.
Et donc Bébert est arrivé, Bébert Falco, il a fait quelques premières plongées puisqu'il plongeait déjà avec Georges Beuchat, qui était son grand frère à la calanque de Sormiou.
Ouais.
Et il est resté 15 jours. En septembre, on lui a dit, ça c'était août 52, en septembre, Frédéric Dumas lui dit, ça vous dirait de rester avec nous? Et lui, il dit, oui, évidemment. Et puis l'aventure est partie. Et il est devenu capitaine de chef plongeur d'abord, puis capitaine de la Calypso. Et il a fait 37 ans et 3 mois à bord de la Calypso. Ça a été la personne qui a resté le plus longtemps.
Campagne mondiale de l'équipe Cousteau.
Quasiment tout, oui. Et Cousteau disait, Falco m'a prêté ses yeux, parce qu'en fait, Falco faisait les interventions sous l'eau. Il a piloté la soucoupe. Et Cousteau amenait les idées, plongeait évidemment, mais pas autant que Falco, parce qu'il avait aussi à gérer toute la direction des expéditions. Ouais. Et c'est Falco qui s'occupait d'énormément de choses.
Et qui ont vécu une aventure extraordinaire, à la mesure où ça les a même amenés à plonger dans le lac Titicaca avec une soucoupe complètement futuriste. Enfin, c'est vraiment des gens qui ont vécu quelque chose d'unique. Hein.
Unique.
Et alors, bien sûr, il y a eu le film, Le Monde du Silence, qui là, Palme d'Or à Cannes, comme vous l'avez dit, qui a évidemment...
Et Oscar à Hollywood.
Un Oscar pour ce film à Hollywood, ça je savais pas.
Oui. Palme d'Or, Oscar à Hollywood, ça a été une bombe. Ouais. Tout le monde a découvert le monde sous-marin à ce moment-là.
Puisqu'on évoque comme ça des gens comme Albert Falco à l'instant, vous pouvez me dire un petit mot sur Jean-Albert Fouex, qui se trouve dans votre livre également.
Alors, Jean-Albert Fouex,
c'est la même époque, les années 50.
Tout petit peu avant. Ouais. Il avait peut-être une quinzaine d'années de plus
que les autres.
Que Falco. Mm-hmm. Jean-Albert Fouex, c'était un juriste de formation et qui, après la guerre, s'est lancé dans le journalisme. C'est un de mes prédécesseurs pour qui j'éprouve beaucoup d'admiration, puisque d'ailleurs, il a travaillé pour Subaquois. Ouais. Et Jean-Albert Fouex a monté une revue qui s'appelait, hélas, L'Aventure sous-marine, qui s'appelait parce qu'elle a été absorbée par la Revue Fédérale il y a quelques années, et qui a longtemps été la revue du Club Méditerranée. Ouais. Et Jean-Albert Fouex a interviewé tous les grands plongeurs.
Il a fait des couvertures.
C'était un homme qui était naturiste et qui allait à l'île du Levant et qui donc a développé tout un tas de relations là-bas et qui en faisait profiter son magazine.
Oui, et qui a fait aussi rêver des centaines de milliers de lecteurs avec des expéditions incroyables. Et moi, je me souviens en particulier d'une expédition qui s'appelait l'expédition Jonas, où Fouex, avec d'autres évidemment, avait décidé d'aller plonger sur tous les sites de la Bible qui étaient des sites sous-marins. Donc il y avait évidemment le lac de Tibériane, mais il y avait toute la mer Rouge, etc. Et moi, ils m'ont fait rêver, ces gens-là.
Et à l'époque, la mer Rouge n'est pas ce qu'elle est devenue.
Exactement. Alors on va continuer à parler de l'histoire de la plongée avec vous. Dans un petit instant, après les informations, on accueillera un autre personnage qui nous fait rêver aussi et que j'aime beaucoup. Il le sait, je vais le faire rougir, mais tant pis. C'est Daniel Meucci. On va parler d'Objectif Atlantide et de chasse au trésor. Nous vous racontons ce matin l'histoire de la plongée, c'est le titre d'ailleurs, une histoire de la plongée, d'un livre qui va paraître à la fin de ce mois, qui est signé Alain Forêt et Pierre dans un mois très exactement, pas à la fin de ce mois d'avril, mais plutôt à la fin du mois de mai, signé d'Alain Forêt et de Pierre Martin Razi. On a compris, si vous êtes avec nous depuis le début de l'émission, que c'est vraiment un vrai travail de Romain qu'ils ont fait, qui est magnifique parce qu'il y a 1800 photos, parce qu'il y a beaucoup de documents inédits, parce que c'est simplement l'odyssée à laquelle la plongée avait droit, quoi. Parce que c'est vrai qu'on a parlé de pratiquants jusqu'à présent, mais je crois qu'il faut aussi parler de passionnés. Les plongeurs sous-marins en général passent très vite du statut de pratiquant à celui de passionné. Quand ils plongent pas, ils lisent des livres. Quand ils lisent pas des livres, ils vont au cinéma, ils guettent les émissions à la télé. Et dès qu'il se passe quelque chose d'un peu important qui touche le monde sous-marin, ils répondent présent. Je dis ça exprès pour accueillir Daniel Meucci. Bonjour.
Bonjour.
Parce que vous, vous faites partie de ces gens qui êtes passionnés, bien entendu, de plongée sous-marine depuis fort longtemps. Et vous êtes aussi un passeur, c'est-à-dire que par votre intermédiaire, par votre envie de faire voyager les gens physiquement et en rêve, vous les amenez à cette pratique, quoi, de la plongée sous-marine. Alors évidemment, quand on prononce le mot trésor, tout de suite les yeux s'allument, vous avez en plus choisi comme nom de ce qui était au départ, je crois, une association. Objectif Atlantide. Alors là, c'est tout dire, parce que l'Atlantide, le continent disparu, mu, etc. Dès qu'on voit ça, on rêve. Parlons d'abord des raids que vous faites, Daniel Meouchi, depuis maintenant plus de 10 ans, je crois, 10, 15 ans
1989, hein, ça a démarré en 89.
D'accord, donc 17 ans, quoi, pratiquement, 17, 18 ans.
Tout à fait.
Parlons de ces raids. Qu'est-ce que vous proposez tous les deux ans, je crois, à ceux qui veulent vous suivre?
En fait, ce qu'on propose, c'est d'utiliser le rêve de tous les plongeurs, qui est de découvrir un trésor, puisqu'on en a un petit peu parlé tout à l'heure.
Ouais.
C'est un véritable rêve pour tout plongeur d'essayer d'accéder à des mystères, à des choses qu'on ne peut pas voir de l'extérieur.
Oui, mais vous, c'est un trésor que vous allez cacher. C'est pas le trésor de la Nostra Senora de la Concepción. Hein,
alors, oui, c'est vrai. On reconstitue, en fait, ce que pourraient vivre des plongeurs, puisque, ouais, bien sûr, tout est reconstitué.
Ouais.
Et on essaie de les faire rêver à travers un scénario, une histoire. On scénarise, si vous voulez, le jeu. On va parler d'un grand jeu, même si c'est sportif, pour parler de ces raids.
Ouais.
On scénarise de telle manière que les plongeurs puissent avoir le sentiment de vivre une vraie chasse au trésor. Et ça marche.
Alors, donnez-moi un exemple, puisque je sais que le dernier raid, c'était loin dans l'océan Indien, autour d'une toute petite île qui s'appelle Rodrigue. Expliquez-moi ce que les gens qui ont participé à ce raid ont découvert en arrivant.
Alors, d'abord, ils ont découvert une île que peu de gens connaissent en France. Quand vous posez la question et vous parlez de Rodrigue, on vous dit Rodrigue, c'est où ? On
a souvent Rodrigue tout du cœur.
Rodrigue a tout du cœur, absolument.
Oui.
Mais Rodrigue, c'est à côté de l'île Maurice. Ça dépend de l'île Maurice.
Oui.
Mais c'est vrai que cette île n'est pas très connue encore du grand public en France.
Oui.
Ni des plongeurs, d'ailleurs.
Oui.
Et cette idée d'aller déjà sur une île...
Oui. Déjà, vous allez dans un bout du monde. Déjà.
Voilà, un bout du monde, une île moins connue.
Vous l'avez fait à Cuba, vous l'avez fait...
Malaisie, en Thaïlande...
Dans les Caraïbes, à la Dominique.
À la Dominique, absolument. On essaie de trouver des endroits qui déjà, par le lieu, font déjà rêver les plongeurs.
Ouais.
Ensuite, on leur donne un beau scénario, on les met en compétition les uns contre les autres, puisqu'ils sont chacun en équipe.
Ouais.
Et
qui trouvera le trésor
le premier.
Ouais.
Et finalement, à travers ce scénario, ces indices... Et ces remontées de pistes, eh bien, on arrive au départ à avoir des gens qui vous disent oui, nous, il n'y a pas de problème, on va y aller doucement, et puis qui finalement rentrent
ils
dans le
pas
jeu.
Du tout doucement.
Ils vont pas du tout doucement.
Est-ce que vous connaissez l'un et l'autre cette manifestation, Pierre-Martin Razi, Alain Forêt? Vous aviez participé en tant que plongeur?
J'ai jamais participé en tant que plongeur. Enfin, j'ai jamais participé en tant que chercheur de trésors.
Oui.
Mais j'ai participé à la première édition aux îles de Lérins en tant qu'organisateur, journaliste, témoin, écrivain du scénario.
Ouais.
Et je peux vous dire que c'est aussi prenant de le faire d'un côté que de l'autre.
Que de l'autre, oui. Et vous, Alain, également,
en aidant Daniel à l'organisation, et puis en allant aussi à Rodrigue, là, en étant, on y était avec Albert Falco, et on a découvert l'île, on a découvert l'émulation entre compétiteurs. Cette course apporte à la plongée, ce raid apporte à la plongée quelque chose qui manque énormément. C'est la voile, par exemple, à des régates. C'est-à-dire qu'on peut, avec les régates, créer une sorte de suspense autour de la voile, de l'activité.
Ouais.
La plongée n'a pas ça, parce que c'est relativement contemplatif, sauf avec Objectif Atlantide, avec le raid, où là, on crée du suspense autour de la plongée. Y a une émulation, il y a un sport d'équipe qui se met en place.
Ouais.
Et c'est la seule activité au monde aujourd'hui qui, en plongée, permet d'avoir ce genre de choses.
Ouais. Alors justement, Daniel Meouchi, évidemment, tout ça, vous faites très attention à la sécurité, parce que on l'a dit, maintenant c'est très habituel, la plongée sous-marine, il y a quand même quelques règles de sécurité, évidemment.
Ça c'est clair, il est évident qu'on n'amène pas les gens au casse-pipe, pour parler vulgairement, mais on les amène vivre du rêve. Donc les zones de profondeur de recherche sont très peu profondes, puisqu'on travaille dans la zone des 20 mètres, donc on est déjà dans des zones accessibles facilement.
Ouais, donc pour ceux qui ne connaissent pas, en général il n'y a pas trop besoin de faire de palier si on n'y reste pas, évidemment,
voilà, le
5
risque,
heures. Quoi.
Voilà, tout à fait, il n'y a pas de palier qui rentre en ligne de compte, on prend des plongeurs qui sont quand même, sur cet événement-là, on prend
des plongeurs confirmés.
Confirmé.
Ouais.
Donc il n'y a pas de problème, ça fait maintenant bientôt 20 ans et on n'a jamais eu de soucis de plongée. On a plus de soucis après la plongée que pendant la plongée.
Ah bon?
Puisque quand il marche dans les rochers, il marche moins bien que qui palme, malheureusement. Et on les soigne sur les entorses.
Alors ça monte finalement, parce que c'est pour ça que je voulais qu'on en parle maintenant, après avoir rappelé cette longue, longue histoire de la plongée sous-marine qui a quand même été émaillée d'inventions, d'avancées techniques, etc. Maintenant, là, on peut se lâcher, quoi, en gros, sous l'eau.
Mais c'était nécessaire pour le monde de la plongée. Comme le disait tout à l'heure Alain Forêt, la plongée sous-marine n'avait pas de grand rendez-vous. Bon, il faut trouver des grands rendez-vous, même pour les plongeurs. Je veux dire, ils ont envie d'avoir ces grands rendez-vous, ils ont envie de s'amuser aussi. Mmh. On peut être sérieux tout en s'amusant. Et il est toujours nécessaire de montrer que la plongée, c'est accessible au plus grand nombre. Ouais. Alors là, on a parlé du RAID Objectif Atlantide, ouais. Mais on travaille sur d'autres événements, justement, pour ça.
Alors ça, vous faites ça tous les ans, parce que en général, Objectif Atlantide, c'est tous les deux ans, si j'ai bien
oui,
compris.
Oui, tout à fait, tous les deux
parce
ans.
Parce qu'il faut trouver les bouts du monde, c'est toute une organisation, évidemment, pour amener, vous amener une équipe de quasiment 60 personnes.
Oui, plus que ça, en comptant tous les participants, les journalistes et les organisateurs, c'est plutôt 100 à 120 personnes.
100 à 120 personnes, donc c'est quand même une lourde organisation. On comprend pourquoi tous les deux ans. Par contre, alors chaque année, et ça je vais pas jouer les naïfs, je suis au courant parce que l'an dernier on en avait parlé ensemble, j'ai trouvé ça fabuleux, c'est-à-dire que vous allez nous raconter, ça commence quand?
Alors ça commence le 1er mai, là, très prochainement.
Alors ça c'est une chasse au trésor que vous proposez aux plongeurs qui sont pas forcément des plongeurs émérites. Hein.
Tout à fait, c'est une chasse au trésor qui dure 4 mois, donc du 1er mai au 31 août. Qui se déroule tous les ans sur le territoire méditerranéen, on va dire français. Alors, c'est-à-dire entre l'Italie et l'Espagne, sur le territoire de villes qui ont accepté d'être partenaires et de jouer le jeu, donc dans les deux régions, Languedoc-Roussillon et PACA.
Ouais.
Et on propose, quand ils le souhaitent, aux plongeurs d'aller chercher des indices et de remonter ainsi à un petit pécule. Ils vont devoir accumuler un certain nombre d'indices différents.
Qu'est-ce qu'on trouve, quoi?
Des petites plaquettes en terre cuite.
Ouais.
Terre cuite pour pas polluer la mer, bien sûr.
Bravo. C'est bien.
C'est important de le dire. C'est posé délicatement. Ouais. Enfin, on fait très attention à tous ces paramètres qui sont très importants pour nous.
Ouais.
Et tous ceux qui ont trouvé en 3 mois les 14 plaquettes différentes qu'il faut trouver reçoivent la carte au trésor fin juillet.
D'accord.
Et là, c'est que le meilleur gagne. C'est 10 000 euros à trouver sous la mer.
Ah oui, d'accord, parce que vous intéressez la partie quand même. Ouais.
Mais on intéresse la partie parce que c'est clair que quand il y a un enjeu, on va dire la sensibilité du chasseur de trésor ressort encore plus.
Ouais.
Et pour aller maintenant sur l'aspect grand public, parler de ça, parce que c'est important, c'est ouvert à tous les plongeurs, soit s'ils sont capables de le faire entre copains parce qu'ils ont le niveau pour ça, soit accompagnés par un moniteur de plongée de la fédération qui les emmènera et qui pourra les faire s'amuser, on va dire, comme tous les autres.
C'est-à-dire organiser donc sur ce pourtour méditerranéen un certain nombre de plongées dans le but de trouver des indices. Je crois que ces indices, l'an dernier, c'était des espèces de poissons de Méditerranée, c'est ça?
Tout à fait, c'est des espèces de Méditerranée qu'on reprend.
Il y en a 14. Donc,
il y en a 14 différents.
Ouais. Alors si on trouve les 14, on le signale à un site internet, c'est ça?
Alors tout est piloté par le site www.letrésor.net.
Ouais.
Et les gens viennent déclarer, s'inscrire. Tout est gratuit, bien sûr, mais ils viennent déclarer et s'inscrire sur ce site internet.
Il faut qu'ils prouvent quand même qu'ils ont bien les 14...
C'est-à-dire qu'ils sont tous référencés avec des numéros, bien sûr, pour que les choses se fassent correctement. Sinon, il y aurait des tricheurs.
Oui.
Mais les plongeurs ne sont pas tricheurs quand même. Ils viennent pour s'amuser.
Ouais. Bon, voilà. Et après ça, donc, deuxième étape de la chose, c'est-à-dire que on reçoit ou on télécharge sur internet donc des documents, des cartes, c'est ça?
Tout à fait. On reçoit en fait la carte au trésor.
Ah,
pour vous donner une idée, l'année dernière, il y a eu 22 000 participants qui ont joué à ça.
Ouais.
Et il y a 450 finalistes qui ont reçu la carte au trésor. Donc il y en a 450 qui se sont battus pendant un week-end pour trouver ça.
Ouais.
Et bien sûr, ça a été gagné par ceux qui ont été les plus rapides.
On a entendu Daniel Meucci il y a un instant nous faire rêver. Vous restez avec nous, s'il vous plaît, pendant encore quelques minutes, parce que je voudrais savoir, par l'intermédiaire d'Alain Forêt et de Pierre-Martin Razi, comment justement ce genre d'événement créé, en l'occurrence, par Meucci. Il y en a d'autres, peut-être, d'ailleurs, mais à ma connaissance, moi, je ne connais que Objectif Atlantide et les chasses au trésor d'été en Méditerranée. Est-ce que ça, c'est de nature, vraiment, enfin, pour vous, vu du côté des pratiquants, de la fédération, etc., c'est que du bonheur, là, j'imagine,
ah ben, c'est
d'initiative.
C'est que du bonheur, c'est médiatique, c'est ludique, tous les ingrédients sont là pour, il y a du rêve, il y a de l'exotisme, il y a tous les ingrédients pour développer l'activité.
Oui, alors je vais être obligé de vous demander, avant, on va reparler de trésor, mais tout à l'heure, parce que j'ai d'autres questions à vous poser. Il y a une autre activité dont vous n'avez pas parlé, Daniel Meucci, parce que je vous connais, vous la ramenez jamais. Vous faites beaucoup de travail aussi en direction des enfants et des scolaires, chaque année.
Tout à fait. C'est-à-dire que l'environnement pour nous est fondamental. Quand on fait tous ces jeux, c'est pas dans le but que d'amuser les gens, c'est aussi dans le but de leur faire découvrir la mer. Mmh. Et c'est un moyen d'amener le grand public à avoir un autre regard sur la mer. Et pour les enfants, nous intervenons dans une trentaine de collèges en région PACA. Mmh. Et on forme à la découverte de l'environnement sous-marin à peu près 1 000 000 d'enfants. Mmh. Qui vont suivre, découvrir, on va dire, redécouvrir ce qu'ils ont appris à l'école de manière un petit peu plus poussée. Mmh. Et ensuite, on les emmène faire un baptême de plongée pour essayer de leur donner la chance au moins une fois dans leur vie, ouais, de voir ce qui se passe en face de chez eux.
Voilà, puis pour leur montrer qu'il y a de la vie sous l'eau. Alors vous leur donnez des appareils photos, moi j'ai assisté à ça un jour, je trouve ça absolument génial. On leur donne une plaquette avec sur la plaquette les espèces de poissons ou de coquillages, de crustacés qu'ils vont peut-être voir en plongée. Et puis s'ils arrivent à photographier ce qui est sur la plaquette, ils gagnent à être connus, je sais pas, mais enfin, en tout cas c'est formidable. C'est bien, parce que ça leur apprend le respect d'un milieu.
Ce qui est important, je pense, pour tous ces enfants, c'est de se dire que ces enfants-là, c'est eux qui vont gérer demain la mer, quand ils seront chefs d'entreprise ou politiques ou autres. Ouais. Et pour leur dire...
Pour leur donner
envie de ne pas jeter une bouteille dans l'eau, comme quelquefois ils en font la réflexion, on passe par simplement cette éducation du regard. Ouais. Et après, ça change complètement l'attitude de ces enfants.
Ouais. Ouais. Pour respecter, il faut connaître.
Tout à fait.
À partir de quel âge on peut plonger?
Alors, pour plonger...
C'est au moniteur que je m'adresse. J'en profite.
Pour plonger, pas le masque tuba, on peut faire ça dès qu'on peut. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Enfin, 2 ans, 3 ans, c'est peut-être un peu tôt, quoique. Ouais. Mais 4 ans, 5 ans, 6 ans. Ouais. Et puis pour la plongée en scaphandre, donc descendre un peu sous l'eau avec de l'air comprimé, c'est plutôt 8 ans.
C'est plutôt 8 ans, c'est quand même très jeune, et c'est là où on leur donne quelquefois des bouteilles qu'on appelle des biberons d'ailleurs.
Des biberons, tout à fait,
des petites bouteilles d'air comprimé.
Voilà, adaptées au gabarit, avec des détendeurs adaptés à la taille de la bouche, des masques adaptés également, et puis voilà, et en fait ils sont comme un... très rapidement ici, ils s'habituent, ils sont vraiment comme des poissons dans l'eau. Ils n'ont aucune crainte, il faut plutôt les freiner.
Voilà. Ils ont la capacité d'émerveillement. Ouais. Ça, c'est formidable avec les enfants.
Alors, je reviens là. Oui, je vous en prie.
Ce qu'il faut dire, c'est que la plongée, ce qui fascine les enfants... Mm-hmm. Récemment, je faisais un baptême à un gamin de 9 ans qui était très calme dans l'eau. Et on a vu une sèche qui arrivait à côté de nous. Mm-hmm. Et cette sèche, je lui ai montré que si on agitait la main par le dessous, n'allait pas fuir. Il ne fallait pas essayer de la toucher par le dessus, mais de mettre la main en dessous, de laisser la sèche venir. Mm-hmm. La sèche est venue, elle est venue au contact et il a caressé la sèche pendant 3-4 minutes. Et ensuite, elle nous a suivis pendant 5-6 minutes sous l'eau. Ouais. Ce gamin, il est sorti de l'eau, il est allé au contact d'une sèche sous l'eau.
C'est une image qui va l'accompagner pendant des mois. Oui,
voilà. Ouais. Et c'est un des rares milieux, encore aujourd'hui, où on peut accéder à de la faune sauvage. Ouais. En 5-10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Ouais. Quand vous allez en montagne, quand vous allez dans la nature, si vous voulez observer de la faune sauvage dans son élément, il faut carrément être un spécialiste. En plongée, c'est à la portée de tout le monde.
Bien sûr. Si on trouve un oursin, on le casse au fond
On évite.
Non, mais attendez. on évite tout de suite. Je vais me faire engueuler. Bon, on me l'a fait, ça, simplement pour me montrer que très vite, qu'est-ce qui se passe. Tous les poissons arrivent, viennent manger.
On peut taper dans ses mains. On peut taper dans sa main,
la prochaine fois,
effet,
je ferai ça
évite de casser l'oursin.
D'accord, je ne casserai plus d'oursin, jamais. Je vous le promets.
Vous savez que les oursins de Méditerranée sont menacés, alors il faut les protéger.
Ouais, parce que c'est vrai que le monde du silence n'est pas le monde du silence, hein, d'ailleurs, la preuve. Ah,
alors attention, le monde du silence, pour pas qu'il y ait de confusion, le monde du silence, ce n'est pas le monde sans bruit, c'est le monde sans parole.
Voilà. Nous sommes d'accord. Alors, pour terminer cette présentation, on ne peut pas tout dire, évidemment, puisque c'est une somme que vous avez faite tous les deux sur cette histoire de la plongée. On parlait de trésors tout à l'heure, de trésors virtuels. Vous évoquez, mais ce n'est pas le but du livre, mais vous évoquez quand même au passage, évidemment, quelques grandes histoires de chasse aux trésors sous-marins.
Ah oui, il y en a eu, mais beaucoup.
Ouais,
bah, il y en a une notamment, c'est Mel Fisher, l'américain Mel Fisher, qui a trouvé l'épave de l'Atocha en Floride.
Alors là, attendez, on est dans les années quoi,
les années
20e siècle, en tout
70,
cas.
Ouais,
oui, voilà,
ouais, 1970. Oui, c'est très récent. Il y a eu un film d'ailleurs qui a été tourné à Hollywood sur l'histoire de cet homme,
ouais.
qui a vécu des drames parce qu'il a perdu son fils sur un typhon, un cyclone.
Et l'Atocha, c'est quoi là?
Alors l'Atocha, c'était une épave espagnole,
ouais,
qui était chargée d'or, de pierreries, de chaînes en or, enfin bon, tout ce qu'on peut imaginer. Et donc Fisher était persuadé de la trouver, il l'a cherché pendant 15 ans.
Ouais.
Et il l'a effectivement trouvé. Ouais. Il a notamment remonté une croix, si ma mémoire est bonne, qui avait été évaluée à elle seule à 7 millions de dollars.
Extraordinaire. Ouais. Hein. Il y avait des diamants, des pierres précieuses.
À tout. Ouais. Tout, des pièces.
Comme dans les films. Quoi.
Comme dans les films. Et Mel Fisher me racontait que quand il cherchait l'Atocha, évidemment, il a cherché longtemps et un peu partout.
Ouais.
Et sur le site où se trouvait l'épave,
ouais,
il a trouvé une ceinture de plomb,
ouais,
avec un plomb au logo de Calypso.
Non.
Si, si. Donc, effectivement, Cousteau l'a cherché pendant pas mal de temps.
La ceinture?
La ceinture aussi, si vous voulez. Il a transformé l'or en plomb, c'est l'inverse, vous voyez.
Alors donc, des histoires de chasse au trésor. Les activités de la Fédération maintenant, alors il y a quoi? Il y a de l'archéologie aussi, on n'en a pas trop parlé. On peut faire des formations à l'archéologie sous-marine?
Oui, alors il y a des formations à l'archéologie sous-marine, il y a des formations à la biologie sous-marine et à la protection de l'environnement.
Ouais.
Très important.
Et
parce
ça, on
que
peut trouver ça par l'intermédiaire de son club de plongée, si
son
on s'intéresse
plongée,
à ça.
Ce, oui, tout à fait. À cela, de oui, proximité, son club, ouais, de plongée au bord de la côte ou à l'intérieur des terres, hein, puisque, ouais, la fédération est présente partout, le plus grand nombre de licenciés situés en région parisienne.
Ouais.
Et partout,
bien
on peut
quitter les piscines de temps en temps. Pour faire les biologies sous-marines, il vaut mieux quitter les piscines.
Le grand intérêt, c'est de se former.
Et le Javel.
Le grand intérêt, c'est de se former pendant l'année,
ouais,
et puis d'être accompagné sur la côte pour plonger ou à l'étranger pour découvrir des destinations.
Ouais.
Il y a la découverte de la photo et de la vidéo sous-marine également. Avec,
ouais,
les appareils numériques actuels, c'est accessible à un petit prix désormais.
Ouais.
Il y a des activités aussi sportives,
mm-hmm,
qui sont la nage avec palme.
Ouais.
Où on pratique, alors ça peut être intéressant pour des gens qui veulent vraiment découvrir le volet sportif, la nage, ouais, avec palme, le hockey subaquatique.
Hockey subaquatique.
Du sport d'équipe, c'est du hockey sous l'eau, où nous avons des champions du monde en France, nous avons les champions d'Europe.
On fait ça en piscine, hein?
En piscine.
Avec des bouteilles?
Ah non,
c'est
du sport.
C'est très sportif.
Très sportif, il faut aller en apnée, nager, faire sa place, pousser le palais, marquer le but.
Wow.
Et donc ça, c'est une activité aussi assez intéressante. Il y a, ouais, également du tir sur cible, de la nage en eau vive également.
Ouais.
Voilà, c'est en fait, la Fédération d'études et de sports sous-marins s'occupe de l'ensemble des activités subaquatiques. Donc il y a la plongée en apnée aussi, la randonnée subaquatique, la plongée en apnée.
Alors, attendez, je vous arrête sur la randonnée subaquatique, comme on va arriver là, on est au printemps, bientôt l'été, etc. C'est quoi la randonnée subaquatique?
Sur le même modèle que la randonnée que l'on peut pratiquer en,
ouais,
surface, en montagne ou autre,
ouais,
non, eh bien, sous l'eau, on part, pas le masque tuba,
ouais,
on est accompagné par un guide,
mmh,
qui nous montre les fonds. On découvre les fonds, on fait tout un parcours d'une heure et demie, deux heures, trois heures, selon le niveau que l'on a.
Il y a des endroits donc en France qui sont équipés pour ça.
Ça s'appelle les sentiers de grande randonnée. Sentiers sous-marins, excusez-moi. je confonds évidemment. Sentiers sous-marins, à l'image des sentiers de grande randonnée, qui permettent, qui balisent un parcours et qui permettent de découvrir la faune et la flore.
Voilà, c'est ça. On sert de ses yeux, on ne touche pas, on ne casse pas d'oursin.
On ne casse pas d'oursin. On est respectueux
du milieu.
On va pas parler.
J'avais su.
On ne prend rien et ça permet de découvrir. Le gros avantage qu'offre la randonnée subaquatique, c'est qu'on peut pratiquer en famille.
Voilà, et le grand avantage de la plongée, c'est que ça fait rêver, je crois, hein, on peut dire ça. Et d'ailleurs, l'un des personnages dont vous avez parlé, je crois, avait écrit un livre qui s'appelait « Premier de plongée », comme on dit « Premier de cordée hein, ». Voilà, alors votre livre, ça s'intitule « Une histoire de la plongée et des activités subaquatiques », bien sûr. C'est signé Alain Forêt, Pierre Martin, Razi. Ça va paraître donc à la fin du mois de mai, aux éditions...
Subaqua,
tout simplement, voilà. Merci à Daniel Néouchi.
Merci bien Jacques.
Et bonne plongée donc cet été, puisque ça commence là très vite.
Le 1er mai.
La chasse au trésor. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci. À bientôt. Au revoir.